écoutez Ainsi soit-elle. Sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire préféré. Ce soir, donc on est avec Marie et Riff.
Salut!
Hello!
Et puis moi, ben, c'est Tiffaine à l'animation. Donc, ce soir, on vous présente un gros morceau sur les femmes et la BD. Aussi, un petit retour sur un film qui n'est pas particulièrement récent, mais qui est tout de même intéressant, La domination masculine. Et puis, pour commencer, ben, un petit coup de gueule, parce que ça faisait longtemps, mais le sexisme soudain nous a quittés et puis qu'on n'a plus rien à raconter, ben non, il continue d'avoir plein d'exemples de sexisme que certains vont nier.
Mais non, c'est du
petit sexisme ordinaire,
c'est
là,
de l'humour. Oh.
Qui passe comme ça sur Facebook. Genre, la dernière image tout à fait douteuse de la microbrasserie Le Corsaire à Lévis. Puis tu sais, c'est toujours un peu dommage parce que c'est souvent des endroits que plusieurs personnes militantes, sympathiques, et moi-même inclus à l'occasion, on a pu fréquenter. Donc, une microbrasserie qui est située à Lévis et qui, il y a quelques jours, a publié une photo sur sa page Facebook de sa nouvelle bière qui s'appelle, qui a le nom charmant, La Petite Pute, et qui se proposait donc de servir ça en fût avec, en tirant sur les cheveux d'une Barbie qui était accrochée à la manette, dans le fond, de la bière pression. Ce qui est rassurant, c'est de voir que quand ça a commencé à circuler, entre autres, il y a la Fédération des femmes du Québec qui a partagé la photo hier, puis je pense que c'est probablement un des premiers groupes là, qui a partagé ça. Ça a vraiment levé, puis il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires très, très négatifs qui sont sortis, qui ont été postés sur la page. Et puis, après des défenses un peu minables de la microbrasserie qui disait à moitié c'est juste une joke et à moitié mais c'est pas vraiment nous, c'est une blague d'un employé, puis vous savez, on pense pas vraiment ça, machin. Des excuses qui n'en sont pas puis qui en plus sont pas appuyées par ce qu'on remarque finalement quand on regarde un petit peu plus en profondeur les autres produits de la microbrasserie là, c'est pas comme si c'était leur seul produit avec un nom douteux. Il y a aussi une autre bière qui s'appelle La Perruche qui est publicisée avec une femme nue dans une cage à perruche. Donc il y a comme c'est pas vraiment en dehors de leur pratique normale. Finalement, ils ont retiré la photo aujourd'hui. Ils présentent des excuses encore là un petit peu à moitié sincères, même s'ils se disent sincèrement désolés de la publication de la photo. Et ils parlent, dans le fond, ils s'excusent parce qu'ils disent que c'était de mauvais goût. Mais tu sais, c'est toujours un petit peu douteux parce qu'évidemment, ça laisse entendre que c'est une question de goût et de bonne morale plutôt que vraiment quelque chose qui a aucun sens, qui est complètement dégradant pour les femmes en général, particulièrement pour les travailleuses du sexe, puis qui est, tu sais, complètement ridicule, puis qui a surtout pas sa place, particulièrement à ce moment-ci de l'année, alors qu'on est en plein dans la campagne là, des 12 jours contre la violence faite aux femmes. Donc, voilà.
Je vais faire... Merci, Tiffaine. Je vais faire un petit parallèle, parce qu'il y a eu des propos racistes qui ont été dits ces derniers temps par rapport à la ministre Taubira en France. Puis justement, les propos d'une femme étaient de dire que finalement, c'était une maladresse. T'sais, elle s'excusait de sa maladresse, alors que ce n'est pas une maladresse, là, c'est clairement un propos raciste. Donc c'est pareil, c'est dans le même ressort là, de banalisation, puis de dire « Oh, mais finalement, c'est ça, c'est du mauvais goût. »
J'ai fait erreur de diffuser cette pensée-là, et pas tant de la penser. J'ai fait un faux pas en le mettant sur une page Facebook, j'ai fait un faux pas en le disant à haute voix, mais je remets pas en question le fait que c'était adéquat de penser ça ou de trouver ça drôle dans un premier temps. Enfin, encore de la job à faire.
Oui, merci pour ce coup de gueule, Tiffany.
On poursuit en musique.
Oui, on va poursuivre avec une sélection de Marie. On va écouter Doussou Koulibaly avec la chanson Chauffeurique.
Écoutez toujours Ainsi squat-elle. Et on va entendre un petit peu parler du film La vie d'Adèle que vous allez nous présenter, Riff et Marie. Mais surtout, on va parler de la BD qui a inspiré le film.
Tout à fait. C'est ça, la semaine passée, on est allé voir le film La vie d'Adèle parce qu'on s'est dit, bon, il faut se faire un avis là-dessus plutôt que de regarder tous les commentaires. Autant faire l'expérience du film. Puis, ben, c'est ça, on avait vraiment beaucoup de choses en tout cas, à dire, déjà, ben je commence, Riff, ouais, ok. Déjà, c'est un très long film qui dure 3 heures avec des scènes quand même assez longues des fois, donc on se demande au bout du compte, pourquoi les scènes sont si longues, là, ça insiste. Moi, je pense que j'ai eu des moments de malaise, là, notamment sur les scènes des relations sexuelles.
Ouais. Puis, dans le fond, autant, bon, c'est un point de montrer ces scènes-là, mais d'en faire 3-4 qui durent aussi longtemps les unes que les autres, que sans fond, en fait, on se demande, il va-tu rebondir, il va-tu se passer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, moi, c'était ça mon malaise, entre guillemets, là, de se dire, bon, oui, il nous montre ça, mais pourquoi, tu sais, si tu l'as montré une fois, pourquoi faire 5 scènes de... J'aurais dû les chronométrer, en fait.
Ouais. C'est ça. Donc ça, entre autres, puis c'est vrai que ça fait un malaise dans la salle quand même, quand on sait qu'on était peut-être une dizaine dans la salle, puis tu sais, ça dure longtemps, puis t'es comme... Bah, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait un malaise partagé, puis pas pour les mêmes raisons. Tu sais, j'imagine qu'il y en a que ça excite, j'imagine qu'il y en a que ça rend mal à l'aise, il y en a qui sont curieux, ah, c'est comme ça qu'elles font l'amour, des lesbiennes, alors que bon, c'est quand même le regard d'Abdelatif Kechiche sur la sexualité lesbienne. Là. C'est pas non plus, je pense pas qu'il soit allé faire une enquête approfondie pour savoir comment ça marchait, comment ça se passait. Donc, c'est ça. Il y a ça qui rend mal à l'aise, puis. Un deuxième truc, moi, qui m'a vraiment rendu mal à l'aise dans ce film-là, c'est le statut puis l'impuissance en fait de l'actrice principale là, qui est Adèle. Tout le long du film, c'est comme si elle prenait pas de décision. Elle est veg, elle a toujours la bouche à moitié ouverte. Elle est comme tu la sens niaiseuse, alors que bon, on comparera tantôt avec la BD, mais c'est ça, c'est pas du tout ce qui ressort dans la BD. Puis moi, ça m'a fait penser cette impuissance là, le fait qu'elle prenne jamais vraiment de décision, qu'on a l'impression qu'elle se laisse guider par le flot de la vie, mais sans vraiment décider jamais, sans vraiment faire des choix. En plus, c'est ça, les liens entre les scènes, entre les moments, des fois on est un peu confondu sur ce qui se passe, combien d'années se sont passées entre les choses et tout. Donc c'est ça, elle est vraiment pas proactive là dans sa vie. Puis ça m'a beaucoup fait penser au film Vénus Noire. Donc c'est le même réalisateur qui a fait Vénus Noire. Donc sur la vie d'une esclave, puis on avait passé dans l'émission Ainsi soit-elle il y a quelques années une capsule de l'émission Case Rebelle en France, qu'on peut trouver sur internet, Case Rebelle au pluriel. Puis c'était une critique féministe en fait du film Vénus Noire, puis qui apportait ce point-là aussi, que vraiment la vie de cette esclave-là, tout le long de sa vie, elle dit jamais non, elle est comme toujours en train de suivre, subir, puis d'être là, puis c'est hyper frustrant à regarder, là. Donc là, c'est sûr que c'est pas le même thème, là, l'esclavage, puis l'amour lesbien, c'est pas le même thème, mais je veux dire, c'est frustrant, là. C'est frustrant de voir un film comme ça, tu sais, en tout cas.
Mais c'est vrai que parfois, même, t'as comme envie de la secouer, là, de dire, fais de quoi, réagis, crie, fais quelque chose, fais... Il la faisait même pas parler, dans le sens où tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était censé l'embêter ou la questionner ou des choses comme ça, mais que ça se ressentait pas. On la sentait comme vraiment c'est ça, subir, puis puis pas vraiment agir par rapport à ce qui lui arrivait, à tous ces questionnements qui seraient normal.
C'est ça, puis justement dans la BD, ce qui est vraiment, c'est en fait elle écrit un journal intime, puis c'est à travers son journal intime que on a l'histoire en fait. Donc il y a tout l'aspect réflexif qu'elle a sur sa vie. Tu sais, elle vit des choses, puis elle se pose des questions, puis elle capote, puis donc elle l'écrit dans son journal, alors que dans le film, en fait, elle fait juste que le vivre. Tu n'as pas du tout l'aspect réflexif là.
Oui, puis c'est intéressant de prendre ça, puis de voir la vie d'une lycéenne. Elle a quoi, 15-16 ans au début du film. Après, il y a des années qui passent. À la fin du film, je pense qu'elle est un peu plus âgée. Mais j'imagine qu'il y a plein d'adolescentes qui passent par ce point-là, puis le film ne vient pas donner des pas des pistes, mais des c'est comme comment une adolescente pourrait vivre ça là, de se dire qu'elle se questionne sur toutes mes amies sont amoureuses de gars, ben moi je dois faire ça, mais sans forcément se poser la question, sans amener la réflexion, sans les discussions avec ses parents, il y a aucun échange avec personne en fait.
C'est ça.
Elle est toute seule, elle est isolée, Puis c'est même pas qu'elle est isolée puis qu'elle réfléchit toute seule, parce qu'on l'entend pas réfléchir dans le film.
Puis c'est ça, il y a aucune critique féministe évidemment qui ressort du film. Puis tu sais, une des seules discussions je pense qu'elle a avec Emma, donc qui va devenir son amoureuse, qui lui demande finalement, ah, depuis quand t'as envie d'être avec des femmes? Puis tu sais, c'est la seule question qui va chercher un peu de fond là. Puis elle dit, ah bah depuis toujours, dadada. Donc ça, tu sais, en plus ça réitère le cliché qu'on a de l'amour comme, bah, pas le cliché, mais tu sais, c'est une expérience de certaines personnes, mais comme le cliché qu'on veut bien dire que, ah bah c'est naturel finalement, ouais. Tu sais, c'est quasiment génétique depuis que t'es né là, tu sais, genre t'es né, t'as crié, t'as fait
ouais lesbienne.
Ouais, c'est ça. Donc il y a pas vraiment, je sais pas dans quelle mesure ça pourrait aider en fait une adolescente qui se pose des questions là, je sais pas du tout.
Ouais. Puis aussi moi ce qui m'a étonnée dans le film, c'est que toutes les relations qu'il y avait entre les deux, à chaque fois qu'il y avait des scènes ou des moments où il y avait Adèle et Emma, c'était elle faisait l'amour. À part cette discussion-là du début, mais en plus c'était le début, c'était la crouse, donc là elle lui
faut
demande,
qu'elle se parle un peu quand même,
parle, c'est ça. Donc voilà, mais sinon c'est souvent au lit, ou sinon il y a plein d'amis, donc elle se parle pas. Adèle fait la cuisine, puis elle apporte tous les plats parce qu'elle se sent pas à l'aise dans le milieu d'artiste. Donc vraiment c'est, il y a aucun échange entre les deux, ils montrent aucun échange à part au lit, tu sais.
Tout à fait. Bref, on a beaucoup de commentaires plutôt négatifs en fait à faire sur ce film, puis pour pas donner trop de place finalement au film non plus, on va surtout plus vous inviter à lire la BD qui est vraiment magnifique. C'est en fait ça a quasiment rien à voir. C'est ça, moi j'avais lu la BD, j'ai vu le film, puis là j'ai relu la BD après. Donc oui, il y a plein de bulles, de scénarios qui sont exactement les mêmes, tu sais, dans le film. Donc c'est mis dans la bouche des acteurs dans le film. Mais il y a plein de choses qui disparaissent dans le film, comme toute l'amitié qu'elle a avec son ami Valentin, qui l'aide beaucoup. En tout cas, il y a vraiment plusieurs choses qui disparaissent, comme ses parents qui la mettent dehors quand ils apprennent qu'elle est lesbienne, alors que dans le film, ça n'apparaît même pas. Donc il y a beaucoup de manques du coup dans le film quand on compare à la BD. Puis en fait la BD est très sensible et très en tout cas c'est pas du tout la même chose, c'est fou.
Ouais. Puis il y a comme quelque chose aussi, le personnage, parce que là c'est la vie d'Adèle. Adèle est un peu au centre du film, mais dans la BD les deux personnages ont quand même une place, tu sais, autant Emma que Adèle, et même que moi je suis ressortie du film en me disant, herc, tu sais, Emma là c'est pas un personnage que t'affectionnes, parce que tu la sens méchante, tu la sens vraiment que avec pas d'amour pour elle, ou des choses comme ça, alors que dans la
Puis Emma c'est donc l'objet de l'amour du personnage principal, qui a les cheveux bleus.
Le sujet, on va dire, quand même, plutôt.
Ouais, dans la façon dont tu le dis. Le sujet de l'amour.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça, c'est la fille aux cheveux bleus, et puis alors que dans la BD, tu sens que il y a vraiment de l'amour là, puis des deux bords, que c'est partagé, que c'est réciproque, et voilà quoi. Alors que cet amour là, on la sent pas dans le, on sent qu'elle est intense dans le film, que c'est vraiment un amour comme passionnel, mais non.
Mais il y a pas toutes les attentions effectivement qu'il y a dans la BD, et puis toutes les. Mais c'est plus réaliste en fait dans la BD, moi je trouve. C'est parce qu'on vit, il y a des gens autour, on a des interactions. C'est comme s'il y avait vraiment beaucoup de choses qui avaient voulu peut-être être romancées dans le film, puis qui du coup sont complètement surréalistes. Tu sais, peut-être qu'esthétiquement c'est beau, là, mais c'est ça.
Puis même pas romancé, parce que la vie d'Adèle, là, en tout cas. Ça, c'est, je veux pas gâcher le punch s'il y a du monde qui vont aller le voir. Non, je veux. Mais tu sais, à la fin, t'es là, tu te dis, mais la pauvre, tu sais, elle est pas bien. Puis alors que, Alors que dans, on compare toujours, mais parce que la BD est tellement bien, puis qu'on a envie que le film ressemble à ça, puis Adèle, elle a une vie pourrie, tu te rends compte qu'elle a pas d'amis, elle a pas de famille, elle se retrouve toute seule, que la personne qu'elle aimait, ben, elle lui dit qu'elle l'aime pas, puis que voilà,
qu'il y a un adultère, alors que dans la BD, il y en a pas, elle a juste failli, tu sais, puis dans le film, il y est à fond, là.
Vous nous dites des punchs, là, finalement.
Non, mais non.
Faut aller le voir. Il dure 3 heures, il y a plein de choses à voir.
Faut aller le voir, mais il faut surtout lire la BD, en fait. Donc, Le Bleu est une couleur chaude de Julie Marot, donc M-A-R-O-H. Elle a un site internet, www.julie.com. C'est ça. Puis d'ailleurs, elle a une lettre sur son site que tu peux peut-être un petit peu expliquer, Riff. En fait, c'est sa position par rapport au film, là, où à un moment donné, il a bien fallu qu'elle s'explique après plusieurs mois où on lui disait Bella, qu'est-ce que vous pensez du film ?
Parce que le film a quand même été palmé, donc il y a eu la palme de je sais pas quoi.
Cannes, palme voilà, d'or, c'est ça.
La palme de je sais pas quoi. Excusez. Puis dans le fond, bon, c'est ça, on lui demande parce que c'est sûr que c'est adapté du bouquin, du livre, de la BD. Mm-hmm. C'est tous pareil. Mm-hmm. Et donc elle se prononce finalement, puis que elle se dit bon, c'est sûr que elle a rencontré Abdellatif Kechiche, le réalisateur, pour lui donner les droits. Donc ça a été une première rencontre avant de lui céder les droits, et que qu'elle lui avait dit bon, c'est ton film, je m'implique pas là-dedans, c'est moi j'ai la BD, puis c'est ta version du film, et que bon, après coup, c'est sûr que les 2-3 points qu'elle critique entre guillemets en disant que c'est sûr c'est pas la même vision, c'est pas la même personne qui regarde les mêmes affaires, donc c'est sûr que la BD est un petit peu on retrouve, si quelqu'un va voir le film en se disant je vais revoir la BD, c'est pas la peine. Ouais. Donc c'est ça, vraiment elle se positionne plutôt à dire que la version de Kechiche c'est la version de Kechiche, puis sa BD c'est sa BD.
Ouais, donc on sent qu'elle se mouille pas là, qu'elle veut pas dire, qu'elle veut pas juger la version de filmée finalement d'une chose, au bout du compte c'est peut-être bien que le film s'appelle d'une façon puis la BD d'une autre, parce que ça montre aussi que c'est deux objets différents.
Deux objets corrompus.
Quoi qu'en anglais, ils ont gardé le titre Blue is the Warmest Color.
OK. En
fait, OK, le pas... film en anglais.
Ouais. OK. Qui est un super beau titre d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui. Oui.
Puis en parlant de Julie Marot, elle a sorti un nouveau bouquin, une nouvelle BD qui est sortie là, il y a pas longtemps, en septembre. Donc elle est, il y a le dossier de presse qui est disponible sur son site internet. La BD s'appelle Scandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N. Donc c'est ça. Elle est, je pense pas, je sais pas si à Pantoute elle est disponible, mais peut-être qu'en la commandant, on peut y avoir accès. Mais là en ce moment, elle est comme en tournée un peu en France pour cette nouvelle BD qui vient de sortir.
C'est ça. Puis c'est sur un sujet différent.
Oui. C'est vraiment, c'est pas du tout le même sujet.
Ok, voilà, c'était donc un retour sur film et BD, donc on vous rappelle que si vous connaissez aucun des deux, priorisez la BD de Julie Marot, Le Bleu est une couleur chaude.
Et puis le lien vers son site va être sur le nôtre.
Oui.
Donc... Ça sera mis tout de suite après l'émission.
Ouais.
Donc on va continuer en musique avec Laurence Petitpas. Thank you.
vient d'écouter Laurence Petitpas, donc une artiste de Québec qui jouait l'accordéon. Et la dernière chanson, c'était un Forró Brasil.
Forró.
Forró, on aime bien ça, la musique instrumentale, accordéonesque.
Donc, on va continuer en vous parlant d'une conférence qui a eu lieu à Gabriel Roy, il n'y a pas longtemps, le 16 octobre, il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'était dans le cadre du festival. Il y a eu quelques journées, Gabriel Roy et l'imaginaire des femmes à la bibliothèque. Mm-hmm. Et dans ce cadre-là, et puis en tout cas dans la même période, je ne sais pas si c'était associé ou pas, il y a eu une conférence sur la question des femmes en BD. Ça s'appelait Lectrice, auteur, héroïne. Donc il y a beaucoup plus de lectrices. C'était une personne qui donnait une conférence sur justement qui a plus de lectrices, plus d'héroïnes, plus de lectrices et donc plus de BDistes femmes.
De plus en plus, quoi.
De plus en plus, mm-hmm, ouais. Mm-hmm. Donc, il y avait une tonne de chiffres que je me rappelle pas, de pourcentages qui avaient augmenté de X années jusqu'à aujourd'hui, mais on était rendu à plus de 50% de femmes qui. Une augmentation de 50% en tout cas. Mm-hmm. Et donc cette personne-là commence, moi c'est le début de la conférence, donc je suis arrivée en retard, et puis il commençait la conférence, puis le début de la conférence c'était une chanson que j'apprécie pas, qui, c'est, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est la chanson qui fait « Où sont les femmes ?»
Oui.
Mm-hmm. Voilà, donc c'était sur cette chanson-là, il y avait une madame qui tournait des feuilles avec les paroles de la chanson à côté de lui. Lui était assis, puis il pitonnait sur son ordinateur pour faire apparaître des images. Donc les images étaient associées à la chanson avec leurs gestes pleins de charme, etc. Donc là, toutes, peut-être à part une là où on voyait Bécassine habillée avec sa robe puis sa tuque, là, toutes c'était des femmes avec d'énormes seins comme on peut voir dans les couvertures là de plein de bandes dessinées là, toutes. Puis la plupart des bandes dessinées qui étaient moi ce qui m'avait poussé à aller voir cette conférence là, c'est que je vais voir enfin ces femmes là que je trouve pas dans les rayons de la bibliothèque quand je cherche des bandes dessinées. Je trouve des héroïnes femmes, mais des femmes BDistes, il faut que je cherche pour les trouver. Donc je pensais vraiment qu'il mm-hmm. allait mettre le point, mais le point était plus mis sur plus d'héroïnes. Et plus d'héroïnes, mais des héroïnes qui ont été dessinées par des hommes.
Par des hommes. Des héroïnes clichés, en fait. Là, il y a. Ouais. Je donnerai la référence tantôt du site internet, mais ça décrit en gros parle du côté comment dessiner une femme en trois leçons. Donc des seins disproportionnés, des tenues décolletées et des poses suggestives, bref un look drag queen. Donc moi je trouvais que ça décrivait bien ces images là d'héroïne. Puis c'est vrai que souvent on les voyait une femme de plein pied comme au milieu de la page de couverture, puis c'est hallucinant, là il y a aucune femme qui est comme ça, tu sais, voilà, c'est juste
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, toute la conférence a été basée là-dessus sur les femmes prennent plus de place. Donc au début, c'est les femmes deux là, un rôle secondaire. Puis au fil des années, elle va prendre plus de place parce que elle a un rôle secondaire. Puis après, elle devient la blonde du rôle principal. Donc là, elle prend plus de place parce que elle est plus présente, tu vois. Donc et puis les bandes dessinées où la femme a un rôle tel quel, elle est réparatrice de vaisseau spatial, je pense que le souvenir que j'ai c'est une BD de science-fiction, je pense que c'était Vaillant, puis elle a un rôle, mais le nom de la BD c'est le nom de son mari, même si c'est elle qui fait tout dans le vaisseau spatial, puis c'est elle qui va réparer les choses, machin. Mm-hmm. Puis là tu vois une image de cette femme-là qui est dehors avec tous ses outils en train de réparer le vaisseau spatial, mais elle est habillée dans une combinaison là, genre moulante au bout, puis tout ça, puis genre ok c'est cool, elle répare un vaisseau spatial, mais elle est à moitié à poil, t'sais.
Mais elle oublie pas d'être sexy.
Fait que c'est comme il y a plein de femmes qu'on représente dans des rôles en dehors des rôles traditionnels qu'on peut avoir des femmes, mais elles ont des micro-jupes en moto, elles font de la Formule 1 avec les seins moulants, tu sais. Mm-hmm. en tout cas. Donc, je suis partie avant la fin de la conférence.
C'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas de présentation de BD féministe là, dans...
Puis tu sais, puis les seuls, il a parlé de Brett Recher, de Julie Doucet, de plein dont on va parler tantôt. Mais en les survolant, tu sais, en disant « Ah, ben, c'est des pionnières, elles ont fait avancer la BD, les femmes dans la BD. » Puis, put, on est passé à autre chose. Puis, mais... voilà, c'est ça.
Donc, il y a beaucoup de femmes qui font de la BD, qui écrivent de la BD, dans lesquelles les rôles principaux, ce sont des femmes aussi. Je vais citer entre autres noms, on les mettra sur notre site puis sur notre page Facebook, puisqu'on est full high-tech en ce moment. entre autres noms, il y a Olivia Klabel, Debbie Dreschler, Linda Berry, Marjane Satrapi, que vous connaissez avec Persepolis, Roberta Gregory, qui elle a écrit entre autres Bitchy Bitch et Bitchy Butch, donc qui fait rencontrer Bitchy Bitch et Bitchy Butch, ça doit être ben drôle. Il y a Alison Bechdel, Caroline Surie aux éditions du Dernier Cri. Il y a une couple de femmes BDistes que vous pouvez trouver dans les éditions de l'association. Mm-hmm. Voilà. Donc pour le Québec, puis moi il y en avait plusieurs sur lesquels j'avais envie d'insister. Ben, avant ça, puisque là en fait c'est des références que j'ai trouvées sur un site internet qui s'appelle scumgrls.org. Donc ça s'écrit S-C-U-M-G-R-R-R-L-S. Donc girls mais sans le i puis avec deux r en plus.
Comme les Riot Girls.
Donc c'est un site avec le sous-titre 100% Feminist Energy. Et puis il y a un dossier femmes dans la bande dessinée. Donc il y a une couple de références vraiment intéressantes avec des liens sur des sites et tout ça. Je pense qu'on mettra le lien, ça vaut le coup, sur les internets. Et donc, il y a plusieurs portraits de quelques dessinatrices BD. J'avais envie de vous partager quelques-uns des portraits. Donc, Julie Doucet, par exemple, D-O-U-C-E-T. C'est écrit « Julie Doucet inonde la ville de ses règles, se réveille un beau matin dotée d'un long pénis ou accouche de plusieurs chatons, quand elle ne raconte pas sa vie quotidienne à New York, Montréal ou Paris. » Avec humour et un ton mordant et ironique, frôlant parfois le surréalisme, cette auteure canadienne transpose à la bande dessinée de nombreuses réflexions féministes sur le corps, le genre, le couple. Souvent, elle se lance dans l'autobiographie, évoque ses amants trop autoritaires, ses crises d'épilepsie, ses problèmes d'argent, ses angoisses ou ses amitiés. En 91, elle lance sa propre revue, Dirty Plot, argot anglais que l'on peut traduire par vagin sale. Vous avez compris, j'imagine. Donc, Julie Doucet, il y a plusieurs de ses albums qui sont publiés aux éditions de l'association, donc vous pouvez la retrouver là. Il y avait d'autres artistes aussi, BDistes, Souko, qui s'écrit C-O-E, donc, qui fait partie de ces femmes écolo-anards écorchées, et donc, en fait, sa description, c'est peinture intestinale, crayon et nucléant, son œuvre témoigne du chaos contemporain. Racisme avec Malcolm X ou ses récits picturaux sur l'apartheid, ses différents projets sur le sida ou encore ses reports gore sur l'élevage industriel, le viandisme et la vivisection. Donc, il y a un site internet où ces ouvrages sont disponibles, c'est graphicwitness.org. Voilà, il y a d'autres artistes, mais BDistes. Moi, il y a mon idole de jeunesse, puis d'encore aujourd'hui, qui est Claire Bretécher, qui est donc quand même une pionnière dans les années 70 à avoir fait de la BD. La BD avec des personnages principaux de femmes, puis souvent des réflexions féministes en fait à l'intérieur de ces BD. Elle a commencé entre autres en 68 avec Baratine et Molgaga. Elle a écrit des séries comme Les Gnangnans, Les Naufragés, Cellulite. Elle a écrit aussi Les Frustrés, qui est vraiment excellent. C'est une série. C'est vraiment bon. La Bretécher, c'est du cynisme, c'est de l'humour noir, c'est ça. Puis elle est qualifiée sur son site internet en fait d'humoriste sociologue. C'est vrai qu'elle reprend beaucoup de questions d'actualité. Et puis elle les interprète à sa façon. Mais c'est vraiment bon. Toutes ces personnages féminines sont comme Agrippine par exemple, sont vraiment excellents. Il y a aussi un album sur les mères qui est très très bon, que je conseille à ma partenaire de gauche, Tiffaine. C'est ça. Donc, Claire Bretécher, elle a un site internet, c'est Claire Bretécher, BRETECHER.com.
Puis maintenant, en plus, on a eu une interprétation de Où sont les femmes tantôt, mais il faut savoir que Bretécher, et même elle est citée dans Ne la laisse pas tomber. Mmh. Elle est si fragile.
Ben oui, ben oui. Un grand classique.
Donc vraiment, dans les grands classiques de pop douteuse, il y a une référence, donc c'est quand même.
C'est ça.
Puis pour faire du pouce ce que tu disais, Marie, pour des BDistes qui sont un peu engagés, puis féministes, on peut citer aussi Florence Sestac, qui a écrit pas mal de BD sur l'avortement, sur comment, c'est plutôt en France, comment elles allaient dans d'autres pays où c'était légal pour justement se faire avorter. Mm-hmm. Etc. Donc sa série qui est la plus connue, c'est Les Déblocs de Florence Sestac.
Ouais, c'est ça. Puis parce que aussi sur le site là dont on vous a parlé, c'est je pense que c'est essentiellement des femmes bédéistes du Nord, on va dire, pour dire ça comme ça. Et il y a aussi une couple de femmes qui font de la BD ailleurs dans le monde. Il y a par exemple Maïtena en Argentine, Daïfa en Algérie. Donc je vous les ai appelées, mais on va mettre les références de toute façon. Mais Maïtena, c'est M-A-I-T-E-N-A. Daïfa, donc D-A-I-2-F-A en Algérie. Au Burkina Faso, on a aussi Diane Ouedraogo, par exemple, et Marguerite Abouette qui a fait, c'est Aya,
oui.
Sa BD qui est vraiment excellente. C'est disponible à la bibliothèque Gabriel Leroy, ouais. si vous voulez y aller.
C'est vraiment une chouette BD sur la vie de Aya qui veut faire des études en médecine pour devenir médecin à Yupongo, son village.
C'est ça, puis c'est une vie d'adolescente, de jeune femme vraiment intéressante. Il y a aussi Juline Sana au Congo. Puis en fait, il y a plusieurs de ces références-là que j'ai trouvées sur le site d'Africulture, donc Africulture attaché au pluriel, et c'est dans un article qui s'appelle « Les femmes peinent à percer les bulles ». Il y a vraiment beaucoup de références dans cet article-là, de femmes, de pays, de tout ça. Donc si vous êtes curieux, curieuse d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs que dans ce qui nous est montré au quotidien, allez-y.
Oui. Puis j'en profiterai aussi pour ajouter à la liste, même si je l'ai pas lu encore, mais il y a une BD toute récente qui vient d'être primée, donc qui s'appelle Le Mauvais Genre et qui parle d'un... Est-ce que c'est ça que tu m'as
dit? Non, du tout. Continue.
Je me laisse distraire facilement. mais c'est ça qui était annoncé par hasard. J'ai vu ça passer ce matin sur le site de Radio-Canada. Et puis c'est tout récent, là, un livre donc de Chloé Cruchaudet qui vient de sortir et qui parle qui se base sur une histoire vraie d'un déserteur qui se travestit dans le Paris de l'après Première Guerre mondiale. Donc ça a l'air super intéressant. Et puis il y a plein de critiques là, qui disent vraiment un incontournable de l'année. Donc peut-être pour peut-être une autre suggestion de lecture, puis on va mettre le lien aussi pour le retrouver. Mais en tout cas, à première vue, les dessins sont super inspirants.
Ouais. Puis une dernière suggestion parce que c'est vraiment une belle BD, c'est ça s'appelle Les Chroniques Mauves. Donc on est aussi dans le thème coloré. Du bleu est une couleur chaude. Mais là, c'est un roman graphique. Il y a plusieurs dessinatrices BD en fait qui, je pense qu'elles sont 12, me semble, si je me trompe plus. Donc voilà, c'est un bon gros bouquin. Je ne sais pas s'il va être facile à trouver ici, par exemple, mais c'est 12 épisodes, en fait, de l'histoire, de l'historique des mouvements lesbiens en France. Et puis, des années 50 à 2011. Donc, c'est vraiment intéressant pour qui s'intéresse à ça. Puis, il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires. Puis, en fait... quelque chose qui est vraiment nécessaire, comme ça dit dans une note de l'auteur qui s'adresse bien entendu aux lesbiennes afin d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice du patrimoine culturel lesbien. Voilà. Donc je vous invite à aller la chercher. C'est Les Chroniques Mauves et c'est publié chez Cat People Prod.
Puis ce qui est le fun avec cette BD-là, c'est que donc c'est des années 70 à 2010.
50 à 2011.
50 ouais. à 2011. C'est que ils suivent souvent, c'est la même, c'est pas la même gang, c'est différentes personnes, mais qui sont quand même liées plus ou moins. Donc on voit aussi on voit le changement entre les années 50 puis maintenant, mais aussi on voit le changement de ces personnes-là même qui étaient en 50 puis maintenant.
C'est ça, donc c'est autant le contexte que l'expérience plus personnelle des gens là, c'est vraiment très très bon à lire. Voilà, donc c'était là pour nos suggestions BD de dessinatrices femmes et féministes, et ou féministes.
On va continuer en musique avec Josiane Paradis, on va écouter Solitude.
Les ondes de CKIA FM 88.3, vous écoutez l'émission Ainsi squatte-t-elle. Je vais essayer de vous annoncer ce qui va suivre avec la bouche pleine, c'est un beau défi. Là, Rive va nous parler de Nana, donc un plusieurs BD qui ont été publiées dans les années 70 et qui ont été vraiment, vraiment excellentes, super hot. Puis ensuite, Tiffaine va nous faire un retour sur le film La domination masculine. Donc, on va clore là notre petite session BD pour après retourner sur le film. Voilà.
Okay. Donc là, Anana, ça va être très rapide. De toute façon, vous pouvez avoir toutes les infos sur Internet. Et il y a même une revue qui a fait tout un article là-dessus. C'est la revue Clio, C-L-I-O. Donc si vous allez sur le site, vous êtes capable d'avoir ces Clio, femmes, genre et histoire. Donc là, il y a tout un article sur ce magazine Anana. C'est un magazine féministe des années 70. Donc à la fin des années 70, malheureusement, la publication a duré uniquement 2 ans. Et
Ouais, c'était juste pour préciser que c'est pas Anana avec un S, le fruit, mais A-H, point d'exclamation, plus loin, N-A-N-A, Nana. Parce que, comme on le disait, c'était comme Anana,
c'est
mais
vrai, c'est vrai.
C'était pas la même portée.
Non, non, non.
Voilà, excuse-moi.
Donc, ah, Nana. Donc c'est une série de BD qui a été publiée aux Humanoïdes Associés. Donc c'est une BD qui c'est des BD qui ont été, il y a eu 9 numéros écrits par des femmes et destinés aux femmes et ça aborde plusieurs sujets dont la sexualité féminine, l'inceste, les violences subies par les femmes. Quand on regarde, il y a des numéros sur la transsexualité. Donc le dernier numéro qui a été publié, il y a eu juste 9 numéros. C'était justement le numéro sur l'inceste. Donc certaines personnes disent que c'était un peu trop trash puis trop ouvert pour l'époque, donc elle a été censurée. Puis d'autres qui disent non, c'est juste que le monde voulait pas lire ce genre de BD à cette époque-là, donc c'est pour ça que ça a pas marché. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse sur cette série de BD. Je sais pas si je pense que en magasin elle est plus disponible, mais sûrement sur les internets ou
il y a peut-être une bonne âme qui les a scannés puis qui les a mis en en accès libre quelque part sur internet. On va essayer de trouver ça et de vous mettre à jour sur le site.
Sur le site internet.
Excellent. Je me mets sur le dossier. Et puis, tant qu'à parler de choses qui sont pas toutes récentes, j'en profite pour faire un petit retour sur un film qui est pas complètement récent, mais qui est pas non plus si vieux que ça, qui s'appelle La domination masculine, qui est un film... d'il y a quelques années qui parle de comme son nom l'indique de domination masculine en Europe et au Québec qui a été fait par Patrick Jean et puis qui fait vraiment un tour d'horizon assez large, pas nécessairement tout à fait représentatif par contre j'ai trouvé, mais qui donne plein d'exemples à la fois des exemples de masculinisme vraiment crasse, des exemples de masculinisme plutôt soft, voire où on sent que certains hommes sont tout à fait en tout cas, j'utiliserai pas le terme victime, mais presque dans le sens où des gens qui sont vraiment pris dans un engrenage logique qui leur fait que du tort là, à mon avis. Des femmes aussi qui se, on voit par exemple une scène où le réalisateur va dans une soirée de speed dating et demande aux femmes de décrire leur homme parfait, puis la description est vraiment déprimante, si je peux me permettre un tel jugement. Et puis donc c'est ça, il y a quand même vraiment un tour d'horizon, donc à la fois en Europe, c'est pas toujours très bien indiqué à quel endroit il se trouve, d'ailleurs même les personnes qui participent au film, qui sont interviewées, sont pas nommées, sont pendant le film, on voit jamais là par exemple quand il y a des entrevues avec des gens qu'on reconnaît au Québec, puis c'est jamais marqué elles sont pas identifiées. Donc ça, c'est un petit peu particulier, mais en même temps, ça permet de vraiment juste entendre ce que les personnes ont à dire. Puis je trouvais que c'était intéressant, dans le fond, le site web du film présente tout un dossier pédagogique qui permet de regarder un peu ça. Donc j'imagine que ça a été conçu pour que ça soit regardé et discuté en classe, mais dans une partie du dit dossier, la dernière partie, le réalisateur parle un peu de ses motivations à faire le film, puis je trouvais que c'était intéressant. D'ailleurs, c'est un des aspects que j'ai aimé du film, c'est qu'on voit des hommes parler, certains qu'on a envie d'étrangler, là, il y a une...
Vraiment.
Voyons, voyons.
Il y a une séquence de peut-être 7 ou 8 minutes de masculiniste québécois, mais c'est au début, bon, t'es un peu cranky, tu te dis « Ah oui, c'est pour ça qu'on se bat ». Puis à mesure que les minutes passent, c'est juste vraiment lourd et déprimant d'entendre. J'avais pensé mettre des extraits, puis finalement, je trouve que c'est vraiment leur donner trop de crédit, trop de place, parce que c'est vraiment, tu sais, très, très gros et très triste d'entendre ça. Mais il y a aussi, par exemple, un homme qui était violent ou qui est violent, justement, il discute de ces questions-là, de dire, ben moi, j'ai été pris dans un engrenage où j'ai contribué dans une dynamique de violence conjugale. Maintenant, je veux me battre contre ça, je veux travailler à faire une société qui est plus égalitaire et tout ça, mais je sais que j'arrive pas on n'en sort pas automatiquement simplement en reconnaissant le problème. Donc, je trouve qu'il y a des éléments très intéressants dans les entrevues qu'il y a avec les hommes, des entrevues qu'on n'aurait peut-être pas vues si le film avait été fait par une femme, justement. Mm-hmm. Donc, notamment, tu sais, ces entrevues-là, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, Harry, tu disais, tu sais, il s'est pas présenté comme faisant un film sur qui allait être critique de la domination masculine.
Ça. Je pense qu'il s'est fait des ennemis, puis qu'il avait un peu peur des représailles, là, suite à ce film-là. Ouais.
Mm-hmm. Mais donc, quand il parle de ses motivations, il dit, pour paraphraser Simone de Beauvoir, donc j'entame une lecture, hein, « On n'est pas homme, on le devient. À 20 ans, je justifie encore par nos différences biologiques les places différentes occupées par l'homme et la femme dans le monde. Je trouvais les femmes plus sensibles et donc plus aptes à s'occuper des enfants. » Je ne sais plus aujourd'hui ce qu'est être un homme, et cela m'a permis de mieux savoir qui je suis. Un homme n'a pas besoin de frapper pour être physiquement violent, et celui qui bat sa femme tous les 10 ans opère, après tout, comme un vaccin et ses rappels. Reste la possibilité quotidienne qui n'a pas besoin de s'exprimer pour imposer une domination. Est-il nécessaire d'aller au-delà du pied qui frappe le sol, ou de la main sur une table, ou de la voix qui gronde et menace, pour exprimer une violence virtuelle que bon nombre de femmes reconnaissent sans peine? Que d'autres passent à l'acte peut suffire d'avertissement. Le rapport est clair. L'homme n'a que rarement peur de la violence physique ou sexuelle de la femme. L'idée est presque cocasse. L'inverse est tout autre chose. Et ce, malgré ce que les différents masculinistes interviewés en pensent, là, c'était un des éléments que je trouvais qui était vraiment, en tout cas, tu sais, qui me retourne, là, d'entendre des trucs, là, sur la violence sexuelle dont les hommes seraient victimes de manière très, très unilatérale, selon mm-hmm. certains d'entre eux, sans dire qu'évidemment que la violence sexuelle envers les hommes n'existe pas, là. Et puis donc, le cinéaste, le Patrick Jean, poursuit « Jusqu'à ce que des femmes me poussent à me déshabiller de mes déguisements virils pour tenter d'apparaître telle que moi-même et de me mettre à observer le monde avec des yeux différents, jusqu'à me surprendre chaque jour encore dans ce que j'appelle mon flagrant délit de mec, comme ce jour où, lors d'une réunion où j'étais invitée, je me suis rendu compte que j'avais adressé la parole et le regard à tous les hommes autour de la table, négligeant complètement la seule femme à qui je tournais presque le dos. » Comme si ces réflexes-là étaient bien tenaces. Comme si un travail de déprogrammation devait se répéter chaque jour. Dans les petites choses comme les grandes. Et donc faire un film, puisque je suis cinéaste. Donc, je trouve que c'est vraiment une prémisse qui est intéressante. Puis je vous encourage à écouter le film. Moi, je l'ai vu passer en regardant simplement là, comme une suggestion qu'il y avait sur Netflix. Mais sinon, il est disponible gratuitement, facilement, sur YouTube. Puis j'ai mis le lien sur notre site. On se trouve très drôle ce soir avec la mise en ligne automatique.
Donc, voilà. Parce qu'on est en même temps à la radio et en même temps sur Internet. C'est quand même fou.
Ah, vraiment. Et puis donc, le film, ben, il n'y a pas que des éléments qui sont super intéressants. C'est un peu coupé au couteau, mais ça vaut la peine de regarder ça et de prendre quelques minutes pour l'écouter.
Merci beaucoup, Tiffaine, pour ta petite... annonce de ce film-là, annonce d'une chose passée, je sais pas si on peut parler d'annonce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à l'émission Riff et Tiffaine, merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices, et puis on va vous laisser. Ce soir, on revient dans 2 semaines avec probablement un sujet sur l'immigration, c'est bien ça?
Probablement.
On garde la surprise encore un peu.
C'est ça, on garde le punch. On parlera pas de Noël, certains. En tout cas, bonne soirée.
Bonne soirée.
Et puis à bientôt. Bye bye.
Salut.